Théologie naturelle, Père Philippe, 24 novembre 1983, à Saint-Joseph.
Il y a pas mal de questions. Alors je vais les confier au frère Benoît, et puis il fera le tri, n'est-ce pas ? Je dis ça, c'est parce que, de toute façon, je pense revenir sur la question au terme, après faire l'analyse, et je crois que c'est mieux pour qu'on puisse voir les choses essentielles. Alors, je vois tout de suite l'article 3. Dieu est-il la même chose que son essence ou sa nature ? C'est pas commode, hein, cet article, parce que, vous allez voir, cette question résume, au fond, une quantité de choses. C'est du reste... Là, on voit bien le génie synthétique de saint Thomas. Saisir toutes les compositions. Première composition, quantitative. Celle-là, on est tous d'accord. Hein. Vous n'avez qu'à regarder votre voisin. Quel poids, quelle quantité. Hein, c'est la composition quantitative, ça. Dieu n'a pas de quantité. Donc tout ce que vous imaginez sur Dieu n'est pas Dieu. Parce que l'imagination, c'est la quantité. Tout ce que vous imaginez n'est pas Dieu. C'est extraordinaire, ça. C'est une purification radicale. Alors, si justement je confonds l'exercice de l'intelligence et le contenu de l'intelligence, ce que fait la philosophie de la phénoménologie d'aujourd'hui. Je ne peux plus rien dire de Dieu. Et c'est ce qu'on conclut. Je ne peux plus rien dire de Dieu. C'est l'agnosticisme d'aujourd'hui. Parce que l'exercice de l'intelligence est toujours lié à l'image. Toujours. Mais le contenu de l'intelligence dépasse l'image. L'image est de l'ordre de la représentation et l'intelligence est de l'ordre de la signification. Ça, c'est une petite critique très importante qu'il faut se rappeler tout le temps. Alors, le premier article montre que je ne peux pas me représenter Dieu. Et que si dans l'Écriture, constamment, on parle d'une représentation de Dieu, Dieu est ici, Dieu est là, Dieu marche, Dieu vient au-devant de vous. Dieu vient au-devant de nous, c'est merveilleux de voir. Dieu vient au-devant de nous. Il vient. Attention, attention, tout ça c'est de l'ordre de la représentation. Mais l'ordre de la représentation, c'est de l'ordre de l'image. Ce n'est pas Dieu. Dieu est au-delà de toute image. Et c'est une purge de toutes les images. Ça va très loin du reste. De tout langage symbolique. Le langage symbolique est nécessaire, l'Écriture s'en sert constamment. Mais le langage symbolique est là, justement, par miséricorde pour nous. Mais notre regard sur Dieu, notre connaissance de Dieu, et de Dieu tel qu'il est au-delà du domaine de la quantité. Bon. Seconde composition, le point de vue de la forme et de la matière. Oui. Première composition, c'est la quantité, c'est très normal. Seconde composition, la matière et la forme, ce qu'on avait vu la dernière fois. La composition de la matière et de la forme est au niveau physique. Au niveau physique, ce que les anciens appelaient la physique. Ce que les anciens appelaient la philosophie de la nature. Tout ce qui est mu implique distinction entre matière et forme. Tout ce qui est mu. Eh bien, Dieu est au-delà du mu. Alors ça, évidemment, ça gêne pas mal de gens qui ont une vision dynamique de Dieu, comme on dit aujourd'hui. Il faut nécessairement que Dieu change, parce que ce serait trop ennuyeux que Dieu ne change pas. Alors il faut un cinéma particulier pour voir les changements de Dieu. Eh bien donc, Dieu ne change pas. Non mutor, hein, je ne change pas. Dieu est au-delà du mouvement. Ça ne veut pas dire que Dieu est statique, hein. Attention, hein. Ça, c'est encore une petite image. Nous opposons le statique et le dynamique. Nous opposons le repos et le mouvement. Dieu est au-delà. Et donc la distinction matière et forme ne peut pas s'appliquer à Dieu. La matière et la forme ne peuvent pas s'appliquer à Dieu. Il n'y a pas de matière en Dieu. Pourquoi ? Parce que la matière implique une potentialité. La matière est nécessairement un être second, un être relatif. Si je prends matière au sens philosophique, hein, parce qu'il faut faire grande attention, le mot matière a des sens tellement divers. Hein, c'est ça la difficulté. C'est quand les savants... C'est pas la faute des philosophes, hein. Il faut bien faire attention, c'est pas la faute des philosophes. Hein. Les philosophes avaient parlé de la matière avant que les savants en parlent. Et les savants ont pris le même mot. Ils auraient dû prendre un autre mot. Il faut leur renvoyer de temps en temps là-bas. Hein. Pas parce que c'est les petits cadets qui se croient tous les pouvoirs et tous les droits. Pas du tout. Ils doivent respecter les aînés qui avaient dit matière, qui avaient parlé de la matière, et la matière avait un sens philosophique. Bien, les savants ont donné un nouveau sens à la matière. Ils ont employé le même mot. Donc ils ont été source de confusion. Ils auraient dû employer un autre mot. Ça, s'ils avaient été élégants par rapport à leurs aînés. N'est-ce pas ? Parce que quand on a des aînés qui sont des philosophes, on doit respecter leur langage. Et quand on invente quelque chose, on doit employer un autre mot. On doit employer un autre mot. Le mot « masse », c'est mieux, parce qu'on n'a pas employé en philosophie. Là, on peut tout de suite comprendre qu'il y a une autre signification. Mais le mot « matière » a été employé comme ça, c'est un mot qu'on emploie de multiples manières. Et le mot « matière » dans l'idéologie marxiste prend encore une autre signification. Tout ce qui est capable d'être changé, c'est le mot « matière » au niveau de l'art. Alors, il faut faire grande attention au mot matière. Ici, le mot matière est employé dans saint Thomas dans le sens philosophique, c'est-à-dire ce qui est radicalement en puissance, ce qui est totalement en puissance. C'est donc un être qui nécessairement est relatif à un autre. L'être en puissance est relatif à l'être en acte. Donc, c'est toute la distinction de l'acte et de la puissance. Et la matière, c'est ce qui est radicalement en puissance. Alors, ce qui est radicalement en puissance ne peut pas exister en Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu est l'être premier, il est l'acte pur. Donc, la distinction matière et forme ne signifie rien pour Dieu. Elle signifie quelque chose pour nous. Ça, c'est vrai. Pour nous, elle signifie quelque chose. Notre corps est du côté de la matière. Ce n'est pas la matière, mais il est du côté de la matière. Il se prend du côté de la matière. Notre âme se prend du côté de la forme. Alors ça ne veut pas dire que Dieu est forme, hein, faisons attention. Je biffe matière, puis je dis Dieu est forme. Oui, ça, ce serait la manière très élégante et pas tout à fait juste. Hein. Donc, ce qui est nu se distingue en phusis, nature, forme, nature, matière. Alors je dis pas de matière en Dieu. Donc Dieu est forme. Faisons attention. La division matière et forme, c'est-à-dire nature-forme, nature-matière, est une distinction qui se fait à partir de ce qui est mu. Puisque Dieu n'implique aucune capacité de changement. Et pourquoi n'implique-t-il aucune capacité de changement ? C'est parce qu'il est parfaitement en acte. Celui qui est en puissance peut changer. Tandis que celui qui est parfaitement en acte, il est au-dessus. Au-dessus de la distinction mouvement-repos. Au-dessus. Au-dessus de la distinction statique et dynamique. Ça sont des chairs. Il est au-dessus de cette distinction. Donc, faisons attention, je peux dire son effet que Dieu est forme, mais forme d'une manière telle qu'il est à la racine de toutes les formes. Et c'est pour ça qu'on aimera Dieu dire que Dieu est substance. Parce que la substance est au niveau de l'être et non pas au niveau du devenir. Tandis que la forme peut se comprendre au niveau du devenir. Donc il faut bien saisir cela. Je ne peux pas attribuer à Dieu quelque chose qui est propre au devenir. Je dois attribuer à Dieu quelque chose qui est au-delà du devenir. Alors, qu'est-ce qui est au-delà du venir ? C'est le point de vue de l'être. Et c'est pour ça que on aimera mieux, pour parler un langage plus correct, dire Dieu est substance. Pourquoi ? Parce que la substance, c'est la source de toutes les formes. Et Dieu est au-delà de la forme, en tant qu'elle se distingue de la matière, et Dieu est source de toutes les formes, c'est vrai. Son être est parfaitement déterminé. Son être est parfaitement déterminé. Si son être est parfaitement déterminé, il est au-delà de la distinction matière et forme. Alors maintenant, nous allons toucher la troisième distinction. La distinction entre nature et suppos. Alors, je prends tout de suite le corps de l'article. Nous l'avions commencé, mais je crois que c'est bien de le reprendre, étant donné que c'est très difficile. Il est dit de Dieu qu'il est la vie, non pas seulement qu'il est vivant, comme on le voit dans Saint Jean, « Je suis la voie, la vérité et la vie ». Or, le rapport est le même de la vie au vivant, de la déité à Dieu, donc Dieu et sa déité même. Ah. Alors, vous voyez, ça c'est très très intéressant, au point de vue du langage. Il faudrait avoir derrière, comme chose, tout le point de vue de Maître Eckhart. Vient de dire Dieu est la déité. Quand vous dites que Dieu est la déité, qu'est-ce que vous voulez dire quand vous voulez dire que Dieu est la déité ? Vous voulez dire que la distinction que vous faites entre concret et abstrait, nous trouvons cette fameuse distinction, concret, blanc, abstrait, blancheur. Ça, vous pouvez comprendre, hein ? Et vous regardez le dictionnaire, qu'est-ce que c'est que la blancheur ? Ce par quoi le blanc est blanc. Alors les scolastiques diront, je dis ça comme langage pour que vous vous habituiez au langage, le langage, blancheur c'est le quoi, et blanc c'est le quoi. Petite distinction de Boès, qui a été drainée dans la scolastique. Ce par quoi le blanc est blanc, le quoi, ce par quoi. Le par quoi. Le coup. Ça se dit mieux en latin, vous voyez, le coup. Alors, ce par quoi le blanc est blanc. Le blanc, c'est concret. Le blanc du mur. Tandis que blancheur, vous ne l'avez jamais vu. Vous n'avez jamais vu la blancheur, sauf dans les réclames. En dehors des réclames, vous n'avez jamais vu la blancheur. Vous ne voyez pas la blancheur, vous n'avez pas saisi. Ayez l'expérience de la blancheur. Pas commode d'avoir l'expérience de la blancheur. Tandis que vous avez l'expérience du blanc du mur, de cette rose blanche, de ce visage blanc, cadavérique. Oh, vous avez l'expérience. Oh, comme tu es blanc ce matin, qu'est-ce qui se passe, à la fin du carême. Toute la communauté est blancheur. Vous voyez ce que c'est. Puisque, à partir du blanc, je connais la blancheur. Ce par quoi le blanc est blanc. Ça, c'est très curieux. Hein, ça demanderait beaucoup d'explications au point de vue critique. Comment notre intelligence a toujours besoin de passer du concret à l'abstrait. C'est une espèce de maladie. C'est un virus. Le virus des intellectuels, c'est ça. Le virus des intellectuels, c'est passer du blanc à la blancheur. Et je complète, hein, certainement, n'hésite pas à me dire, est-ce, c'est le langage de Saint Thomas, est-ce ce qui est, Heidegger traduirait étant, ce qui est, est-ce l'être, l'être. C'est l'abstrait du concret. Alors, l'intelligence a besoin de passer du concret à l'abstrait. Elle a besoin de faire ça. Et voyez, déjà blanc, c'est déjà abstrait. Le blanc du mur, c'est déjà abstrait, non ? Parce que c'est universel. Je peux dire le blanc du mur, le blanc du visage, le blanc du marbre, le blanc, et ainsi de suite. Hein. Donc c'est déjà abstrait. Alors, il y a un premier degré d'abstraction, un second degré d'abstraction. C'est l'abstraction au carré. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, il n'y a plus d'expérience. Vous n'avez jamais touché la blancheur. Vous touchez le blanc du mur, vous le voyez, par vous touchez, par la vue. Tandis que vous n'avez jamais vu la blancheur. Vous voyez ce qui est. Est-ce? C'est un quoi? Est-ce ce qui est? Mais vous n'avez jamais vu l'être. C'est pour ça que Père Mandonné disait qu'il fallait avoir 40 degrés de fièvre pour avoir la vision de l'être et l'intuition de l'être. Alors on avait un petit nuage. On voit quelqu'un à 40 degrés de fièvre. On n'a jamais vu l'être. Tandis que vous touchez intellectuellement ce qui est. Mais l'être, non. Et c'est vrai, l'être, non. Puisque c'est l'abstrait. Mais c'est quand même très curieux, cette chose-là. Et ça, il faut le comprendre. Homme, humanité, l'humanité, oui, vous avez le journal Humanité, mais humanité comme telle, hein, l'humanité comme telle, c'est abstrait. Vous n'avez jamais vu l'humanité. Vous avez vu cet homme. Alors, c'est très important, vous voyez, parce que la philosophie qui part de l'expérience part du concret. Et elle revient au concret. Mais une philosophie qui perd pédale, elle part dans le bleu, c'est-à-dire dans la blancheur, et c'est-à-dire dans l'être. Alors elle perd contact avec le réel. Elle perd le contact avec le réel et elle pense qu'on peut spéculer indéfiniment. On a une idée de la blancheur, oui, on a une idée de la blancheur. On a une raison, une ratio. On a une raison de la blancheur. Mais on n'a pas expérience de la blancheur. Oui, je peux évidemment savoir qu'est-ce que c'est que la blancheur. Je peux me poser la question. Donc il y a une idée de la blancheur. Il y a un mot de la blancheur. Il y a une idée. Il y a une idée de la blancheur. Métaphysique de l'idée et la blancheur. Oui. Métaphysique de l'expérience au blanc du mur. Il faut être très net là-dessus. Il faut bien comprendre. Les idées qui peuvent être des idées abstraites, qui sont même toujours des idées abstraites, et qui ont une signification particulière. Alors, ils ont une signification. L'idée a une signification. Tandis que le blanc, lui aussi, a une signification. Mais cette signification, elle se concrétise dans le blanc du mur. Et en disant blanc du mur, vous touchez une réalité. Alors, quand il s'agit de l'homme et de l'humanité. Je fais une différence entre la signification de l'homme et la signification de l'humanité. Comme je fais une différence entre la signification de blancheur et de blanc. Le quoi et le quoi. L'homme n'est pas l'humanité. Si vous avez le culot de dire, regardez-moi, je suis l'humanité. Il y a Jean-Jacques Rousseau qui a eu ce culot-là de dire ça. Il a eu le culot de dire ça, il l'a dit. Il a dit, regardez-moi, je suis l'humanité. C'est extraordinaire de dire ça. Donc ça ne vous vient pas à l'esprit. Je suis, oui, regardez-moi si vous voulez. Je suis une partie de l'humanité. Je représente quelque chose en l'humanité. Pas grand-chose, mais quelque chose en l'humanité quand même. L'humanité, c'est beaucoup plus vaste. La signification de l'humanité, c'est tous les hommes. Ce par quoi l'homme est homme. Ce par quoi l'homme est homme. Tandis que l'homme, c'est tel homme en particulier. C'est l'homme concret en particulier. Donc il y a deux significations différentes. Le quoi et le quoi. Quand il s'agit de Dieu. Quand il s'agit de Dieu. Dieu est déité. Qu'est-ce que c'est que la déité? Ce par quoi Dieu est Dieu. C'est le quoi. Et Dieu est quoi? Et je dis que lorsqu'il s'agit de Dieu, la forme abstraite et la forme concrète ont la même signification. Très sûrement, la métaphysique de l'idée n'est juste qu'en Dieu. Parce que Dieu, la déité, c'est Dieu. Tandis que la blancheur, c'est pas le blanc. L'humanité, c'est pas l'homme. tandis que déité égale Dieu. Alors, saint Thomas ira plus loin. Il dira, lorsqu'il s'agit, par exemple, je parle bonté. Eh bien, bon et bonté, ça a la même signification. Ce par quoi le bon est bon, il y a la même signification. Pourquoi ? Parce que je suis en face d'une notion qui n'a pas de limite. Tandis que c'est une notion qui est, on dira en termes précis, une notion qui n'est pas quantitative. C'est-à-dire dont la signification est au-delà des prédicaments. Tandis que toutes les notions qui sont enfermées dans les prédicaments, la notion du concret et de l'abstrait sont différentes. C'est très curieux, ça. Et c'est très intéressant, du reste, à réfléchir, parce que c'est une chose très simple, parce que c'est une question du langage, mais qui exprime quelque chose de très profond. Je vois donc qu'il y a deux registres dans ma pensée. Il y a deux registres. Il y a un premier registre où l'abstrait et le concret ont deux significations différentes. Il y a un second registre dans lequel l'abstrait et le concret ont la même signification. Pourquoi ? Un petit gosse qui dit pourquoi ? Pourquoi lorsque vous dites Dieu et déité, c'est la même chose, et lorsque vous dites blanc et blanchet, c'est pas la même chose ? C'est curieux, et pourtant, dans le langage, oui, je parle de l'abstrait et du concret, tout simplement, sans faire attention. Et je crois que dans toutes les langues, on aurait ça. Parce que l'abstrait est plus ou moins développé. Hein. Il y a des langues qui sont plus ou moins développées du côté de l'abstrait. Mais on retrouverait toujours la même chose que lorsqu'il s'agit de notions limitées qu'on appelle quantitatives. Oui, c'est pour ça que là, ça fait quelque chose de très particulier, mais je n'ai pas dit. Hein. Est-ce que c'est la même signification « ens » et « esse » ? Et oui, c'est la même signification comme bonté. Ce pas deux significations différentes. Tandis qu'au contraire, blanc et blanchot, deux significations différentes. Homme et humanité, deux significations différentes. Substance et substantialité, deux significations différentes. Personne et personnalité, deux significations différentes. C'est très curieux ces choses-là. À personne. Point d'interrogation. Mettez point d'interrogation, parce que ça vaut le coup. Oui, c'est ça, ça vous montre que c'est pas notre sens. Hein. Est-ce que ça a la même signification personne et personnalité ? Si la notion de personne implique aucune imperfection, comme la notion du bon, bonté et bon ont la même signification. Et donc personnalité et bon ont la même signification. C'est tout le problème de la personne. Hein. Alors moi, c'est pour vous montrer que c'est pas si commode que ça, il faut quand même réfléchir un peu là-dessus. Et quand vous parlez dans le langage bon et bonté, bon, c'est pas la même chose du tout. Bon et bonté, Dieu et déité, et puis blanc et blancheur. Alors, je donne la petite solution très vite, hein, avant de regarder l'article de saint Thomas, parce que c'est important. C'est important de voir ça. Je vois qu'il y a deux registres de ma pensée. On dira, au plan philosophique, un registre d'une connaissance univoque et un registre d'une connaissance analogique. Puisque vous avez vu l'analogie et vous avez vu l'univocité, vous voyez, je peux faire appel à cela. Il y a des notions analogiques, il y a des notions univoques. La notion univoque, c'est une notion, alors c'est très simple, qui est limitée dans sa signification. Elle est limitée dans sa signification. La notion analogique au sens le plus fort n'implique pas de limite dans sa signification. Alors elle a des modalités différentes, mais elle n'implique pas de limite. C'est pour ça que dans la notion analogique, la compréhension et l'extension vont de pair. Tandis qu'au contraire, dans la notion univoque, parce qu'elle est limitée, la compréhension et l'extension sont en opposition. C'est parce que l'une est limitée et l'autre n'est pas limitée. La notion de bon, de bien, n'implique en elle-même aucune limite. C'est C'est pour ça que je peux l'attribuer à Dieu. La notion de personne en elle-même n'implique aucune limite. C'est pour ça que je peux l'attribuer à Dieu. Alors j'ai une notion analogique, parce qu'elle n'implique en elle-même aucune limite. Et alors je suis obligé vis-à-vis de ces notions analogiques, vous voyez, c'est propre de l'intelligence, c'est l'intelligence qui dépasse son conditionnement habituel d'être une intelligence qui connaît les réalités physiques, mais comme elle est une intelligence qui peut aller plus loin et au-delà du mouvement des réalités physiques, saisir la réalité profonde dans son être, l'intelligence à ce moment-là, comme intelligence et non plus comme raison, peut saisir des notions qui n'impliquent en elles-mêmes aucune limite. Vous voyez, au fond, c'est cette distinction qu'on retrouve constamment dans saint Thomas entre intellectus et ratio. La ratio exprime, notre manière de connaître. Notre manière de connaître est dépendante des sens. Notre manière de connaître est univoque. Notre manière de connaître implique une abstraction qui implique une univocité. L'intelligence demeure dans la ratio. Ce n'est pas deux facultés différentes. C'est la même faculté, c'est la même puissance qui est intelligence tout en ayant un mode rationnel. Il y a des gens qui raisonnent énormément et qui ne sont pas intelligents. Parce que les fous raisonnent. Et même ils raisonnent d'une manière telle que les êtres indéfiniment. Jamais vouloir convaincre un fou. Alors je ne veux pas dire que tous ceux qu'on ne peut pas convaincre sont des fous. Ça, c'est pas... Mais on n'arrive jamais à convaincre un fou. C'est évident, il raisonnera indéfiniment. Il n'y a plus l'intellectus, il n'y a plus le jugement. Il n'y a plus l'intelligence. C'est deux choses différentes. Il y a des gens qui raisonnent parfaitement. Indéfiniment. Je pense, vous voyez, les vieux moulins à café. Alors, quand tu entends qu'il y a du grain, ça va. Mais il y a des gens qui continuent, il n'y a plus de grain. Et ils continuent de raisonner. Ils raisonnent indéfiniment. Ils peuvent raisonner indéfiniment. C'est ça. Il n'y a pas de limite dans le raisonnement. Aucune limite. Même s'il n'y a plus rien à moudre, ça n'a pas d'importance. Je continue à raisonner. Ça me fait plaisir. Mais je raisonne indéfiniment. Tandis que celui qui est intelligent, il met un point au raisonnement, et il met un terme au raisonnement. Il dépasse le raisonnement. Dépasser le raisonnement, c'est l'intelligence. Et il dépasse le raisonnement en touchant le réel. Quand je touche le réel, il n'y a plus de raisonnement. Je suis devant le fait. Le fait est principe, c'est-à-dire il est point de départ et tout. Si vous êtes intelligent, si vous n'êtes pas intelligent, vous continuez de raisonner. Dire ça m'est bien égal la réalité, moi je raisonne, je suis plus que la réalité, je continue de raisonner. Alors, vous voyez, c'est très important de voir ces deux registres. Ces deux registres que nous reverrons du côté de l'analyse. Deux types d'analyse, deux types de division. Il y a deux types de division. L'intelligence divise toujours, mais elle divise de deux manières différentes. Il y a une division au niveau de la raison et une division du côté de l'intelligence. Être intelligent, c'est rejoindre la réalité qui existe. Raisonner, c'est raisonner à partir de mes idées. Alors je peux raisonner indéfiniment. À partir de mes idées, c'est la dialectique. La dialectique est la raison indéfiniment, pas de limite. Et il n'y a plus de contemplation. Parce que je ne peux contempler que le réel. Je ne contemple pas mes idées. C'est très gênant de contempler ses idées. Mais on ne peut pas contempler ses idées. C'est absolument impossible. On contemple le réel, la réalité existante. On contemple une personne. Et on aime une personne. Et c'est pour ça qu'on peut la contempler. Vous ne pouvez pas aimer vos idées. Si vous aimez vos idées, c'est dommage. Vous utilisez vos idées. Vous ne pouvez pas les aimer comme telles, sauf quand c'est génial. Alors à ce moment-là, vous pouvez les aimer jusqu'au moment où vous avez vu que ce n'était pas génial. Alors à ce moment-là, l'amour dégringole d'un seul coup, en disant, mais non, ce qui est génial, c'est la réalité. Ce n'est pas vos idées. Vos idées, c'est toujours des sous-fifres. C'est toujours quelque chose de second. Tandis que la réalité, c'est autre chose. La réalité, elle vous dépasse. La réalité va plus loin. Alors, c'est important, vous voyez, de comprendre cela, qu'il y a ces deux registres. Alors, le registre ratio, vous trouvez toujours abstrait, concret. Le concret et abstrait. Il y a un même registre ici. Mais la différence, c'est que l'intelligence dépasse dans sa signification l'abstrait et le concret. Tandis que la raison, elle est dépendante de la distinction de l'abstrait et du concret. C'est ce qui fait comprendre comment l'intelligence saisit et peut saisir des notions analogiques. Et la notion analogique dépasse la distinction abstrait et concret. Tandis qu'au contraire, la notion univoque, elle reste au niveau de l'abstrait et du concret. Bon, alors, maintenant, nous allons essayer de comprendre ce que Saint Thomas nous dit ici. Essayer de comprendre la différence qui existe entre la nature et le suppos. Comprenez très bien, comprenez tout de suite en vous. Vous avez tous, nous avons tous ici la même nature. Parce qu'il n'y a pas de chien ici à côté, tu vois. Il n'y a pas de chat ici à côté, il y a des araignées, mais elles ne nous écoutent pas. Donc, tous ceux qui écoutent ont la même nature humaine. Et nous sommes tous des suppôts individuels. Et ce serait très mauvais de vous dire, oh, un clou chasse l'autre, donc ça n'a pas de différence, vous ou votre voisin, ça n'a aucune espèce d'importance. Pas du tout. Un suppôt a toujours quelque chose de singulier, d'individuel et d'original. Tandis que du côté de votre nature, vous êtes tous le même. Vous ne pouvez pas dire, moi, j'ai une super nature. On va dire nature humaine. Vous pouvez dire, vous êtes surdoué, tant mieux, tant mieux. Ne faites pas trop sentir à votre voisin. Mais vous êtes surdoué, c'est peut-être très vrai, c'est peut-être très vrai. Surdoué en mathématiques, surdoué en orthographe, surdoué en esthétique, c'est très possible, c'est très très bien. Mais vous voyez, c'est une activité ça. C'est pas vous, c'est pas votre nature humaine. Votre nature humaine est la même. Nous avons tous la même nature humaine. Mais notre individu, ce qui est notre suppôt, le suppôt regarde la nature individuelle et singulière pour chacun d'entre nous. Et pour chacun d'entre nous, il y a une distinction. C'est pour ça que je ne peux pas dire « Regardez-moi, je suis l'humanité ». Je ne peux pas dire ça. Parce que l'humanité en moi, elle est participée. Je ne suis qu'un aspect de l'humanité. Et chacun d'entre vous, vous n'êtes aussi qu'un aspect de l'humanité. Donc vous n'êtes pas l'humanité. Il y a une distinction entre vous, entre nature et suppôt. Vous voyez, c'est la distinction. Eh bien, en Dieu, il n'y a pas de distinction entre nature et suppôt. Puisque Dieu est sa déité, et la déité est Dieu. Pourquoi n'y a-t-il pas de distinction en Dieu entre nature et suppôt? C'est tout simplement parce que en Dieu, c'est lui-même qui est singulier. Tandis que vous ne pouvez pas dire que c'est votre nature qui est votre singularité. Votre singularité s'ajoute à votre nature. Vous êtes la nature humaine, en vous et la nature humaine, mais vous n'êtes pas votre singularité. La singularité s'ajoute, c'est quelque chose qui vient s'ajouter, c'est quelque chose d'accidentel, d'une certaine manière. C'est substantiel, d'une autre manière, c'est quelque chose de très enraciné en vous, mais ce n'est pas votre nature. Donc, en vous, il y a une distinction entre nature et suppôt. Cette distinction ne peut pas exister en Dieu. Parce que Dieu est son être. Il est son être. Tandis que je ne suis pas mon être. J'existe. J'existe avec la nature humaine. J'existe avec mon individualité. Mais il y a une distinction en moi entre ma nature et mon individualité. Je lis l'article de saint Thomas. Pour comprendre cette vérité, il faut savoir que dans les choses composées de matière et de forme, nécessairement, il y a distinction entre la nature ou l'essence, d'une part, et le suppôt de l'autre. En effet, la nature ou essence ne comprend que ce qui est contenu dans la définition de l'espèce. Ainsi, l'humanité comprend ce qui est inclus dans la définition de l'homme. Puisque l'humanité, c'est ce par quoi l'homme est homme. Donc c'est le co, c'est cela qui est défini. Car c'est par cela même que l'homme est homme. Et c'est cela que signifie le mot humanité, à savoir ce par quoi l'homme est homme. Or, la matière individuelle, jointe à tous les autres accidents qui individualisent, n'entre pas dans la définition de l'espèce, car on ne peut introduire dans la définition de l'homme cette chair-ci, ces os-là, ce nez particulier. Ça ne fait pas partie de la définition de l'homme, d'avoir ce nez particulier, d'abord. Cette blancheur particulière, cette noirceur particulière, etc. Ça ne fait pas partie de la définition de l'homme. Oui, d'avoir tel nez. Ça ne fait pas partie de la définition de l'homme. L'homme est homme indépendamment de telle ou telle individualité. Indépendamment de cela. Oui, la définition de l'homme est le caractère individuel. Alors, un caractère individuel, oui, ça c'est quelqu'un vous fait votre caricature, si vous avez un nez particulier, il saisira ça tout de suite. Et tout le monde saisira, on mettra uniquement le nez. Ah, c'est un tel. J'ai reconnu le nez. Mais c'est son caractère individuel, ça. Alors ce caractère individuel fait qu'on est typé. On est tout de suite mis en lumière. Et quand regardez les caricatures, hein, c'est... tout de suite, vous trouvez, il y a le nez. Très gênant quand on a un homme politique d'avoir un grand nez. Parce qu'en tout de suite, on caricature. C'est vu immédiatement. Et ainsi de suite, vous voyez, les caricatures mettent l'individu en pleine lumière et laissent tomber complètement la nature humaine. C'est extraordinaire. La nature humaine, ça n'a aucun intérêt au point de vue des caricatures. Soyez singe, vous pourrez mettre mieux de caricatures, c'est ça. Parce que la caricature voit l'individu et le philosophe regarde la nature. Et en nous, il y a une distinction entre les deux. Ça c'est net, puisque de fait, notre individu regarde nos qualités particulières. Donc cette chair, ces os, les accidents, ce nez qui caractérise cette matière ne sont pas compris dans l'humanité. Et cependant, ils appartiennent à celui-ci qui est homme. Cet homme qui a ce nez, ça lui appartient. On va dire, oh, écoutez, ça ne fait pas partie de la nature humaine, je vais vous le couper. Oh, non, ça fait partie de moi, ça fait partie de mon individu, ça. Vous voyez, ça fait partie de mon individu. Il s'ensuit que l'être appelé homme a en soi quelque chose que n'a pas l'humanité. Ah, c'est ça qui est intéressant. Cet être, hein, il s'ensuit que l'être appelé homme, l'être à l'homme, Cet individu que je suis, possède quelque chose que n'a pas l'humanité. Et ordinairement, justement, c'est ce que les autres n'ont pas et que j'ai qu'on aime le plus. C'est pour ça qu'au bout d'un certain temps, notre originalité, nous l'aimons plus que la nature humaine. Et c'est vrai, c'est comme ça que ça peut se faire. Parce qu'on aime bien d'avoir sa petite originalité. D'avoir quelque chose qui nous caractérise. Et c'est pour cela que ce n'est pas entièrement la même chose que l'homme et que l'humanité. Parce que l'humanité ne regarde que la nature, l'homme regarde tout ce qui est individuel. Vous voyez ? La signification de l'homme, de l'humanité, c'est tout ce qui est la nature humaine. La signification de l'homme, de cet homme, ce sont ses caractères particuliers individuels. Mais ce qu'on signifie par l'humanité joue à l'égard de l'homme individuel le rôle d'une forme dans une matière. Parce que les principes qui définissent ont ce caractère de forme à l'égard de la matière qui fournit l'individuation. C'est très vrai. C'est la forme, c'est la nature, c'est l'essence. Mais dans les êtres, qui ne sont pas composés de matière et de forme. en qui l'individuation n'a donc pas pour principe une matière individuelle, à savoir telle matière, mais où les formes se trouvent individualisées par elles-mêmes. Il faut que ce soit les formes elles-mêmes qui se trouvent être les suppôts subsistants, de sorte que dans ces êtres, il n'y a pas de distinction entre suppôt et nature. Ainsi, sachant qu'en Dieu, il n'y a pas de composition de matière et de forme, ce qu'on a dit précédemment, on doit conclure nécessairement que Dieu est sa déité. Il est sa vie. Et quoi que ce soit qu'on affirme ainsi de lui. En Dieu, c'est la même chose, l'abstrait et le concret. Parce qu'il n'y a pas d'individuation qui s'ajoute à sa nature. Dieu est l'être le plus original qui soit. Parce qu'il est original dans ses principes mêmes. Il est unique. C'est extraordinaire. C'est beau, du reste, comme contemplation. Ça paraît très simple, et c'est très simple au point de vue proprement analyse philosophique, c'est très direct au point de vue analyse philosophique, parce qu'il n'y a pas de matière en Dieu. Puis s'il n'y a pas de matière, il n'y a pas de distinction entre le suppôt et l'essence. Alors la conséquence, c'est que tout l'être de Dieu est original. Tandis que nous ne sommes pas originaux dans tout notre être. Ce qu'il y a en nous de commun avec les autres n'est pas original. Nous sommes originales quant à notre individualité. Nous avons telle tête particulière, telle nez spéciale. Nous avons telle manière de circuler. Nous avons tel poids particulier. Ça, c'est sûr. Alors ça, c'est l'individu. C'est l'individu qui déborde la nature, n'est-ce pas, qui est quelque chose d'autre que la nature. C'est pour ça qu'en nous, il y aura toujours une distinction entre les deux, entre nature et suppôt.